suivre l'histoire a priori invraisemblable de cet inconnu a fait l'événement toute la semaine.
Mais regardez-moi bien!
Je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement parce que c'est un moment très difficile pour lui.
Attention pour son entrée.
C'est fait! Je suis médecin! Internez-moi!
Martin Kaczynski.
Ça dérange quelqu'un? Parce que si ça vous dérange, je vous emmerde tous! Regardez-moi!
Tout ça sera servi à quoi alors?
C'était divertissant.
Et ça le sera ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de sans-papiers, de médiathèques, de disparitions, de comédies sociales, de colonies de vacances et même de kangou. Avec Eric Toledano et Olivier Nakache qui co-réalisent Samba, cinquième film pour un cinéma de la comédie sociale, avec pour la première fois une incursion dans la comédie romantique entre un sans-papier et une bénévole complètement dépressive, Benoît Lagane.
Oui, l'occasion pour le duo de poursuivre un cinéma marqué par un sens parfait du casting et des dialogues et mettre en avant un duo homme-femme pour mieux, je les cite, « d'escaler leur névrose sur une femme ».
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine qui a invité ce week-end, ou plutôt qui a rencontré ce week-end, le scénariste Olivier Gorce. 19h35, plateau Morvan avec Serge Joncourt qui signe l'écrivain national, le roman d'un écrivain invité pour une résidence littéraire entre Nièvre et Morvan et qui va mener l'enquête sur une trouble disparition. Manu Farine.
Un roman entre enquête policière sylvestre, enquête sur la littérature, fausse autofiction et vrai documentaire sur les à côté de l'écriture dans la vie de l'écrivain. C'est dur aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Si on est arrivé à dire les mots dans le vrai sens, avec les vraies lettres, on prend le pari ? On va réussir. 19h50, la session lundi. Du live avec Quand Claude, Benoît Lagane.
Oui, une session pop programmée par Lucille Como. Quand Claude, une des révélations pop de cette rentrée musicale. Ils joueront Trap en direct dans ce studio.
Mais d'abord, c'est de l'actualité culturelle, si on y arrive. Le tout nouveau journal de la culture de Zoé Sfez. Mais jusqu'à quand ?
Sometimes demons can attach themselves to objects.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est quoi ce son du jour?
Alors c'est la bande-annonce du film d'horreur Annabelle. Vous avez certainement croisé l'affiche qui montre une poupée, vraisemblablement pas comme les autres. Un film qui fait peur aux spectateurs évidemment, mais aussi au cinéma. Le film, interdit au moins de 12 ans, fait fureur au box-office depuis qu'il est sorti mercredi, mais il a été déprogrammé ce week-end de plusieurs salles, à Marseille, à Strasbourg, à Montpellier. Raison technique, admettent pudiquement les uns. Et les autres parlent de raison de sécurité. Ce sont en fait les spectateurs qui font peur. Certains exploitants anonymes parlent de jeunes agités, de bagarres, de comptoirs de confiserie ravagés, de fauteuils sur lesquels on a uriné. Ni le distributeur du film Warner Bros, ni les exploitants ne veulent communiquer sur le sujet.
Eh bien, oui. On passe maintenant au dossier du jour. Ce n'est pas du tout la même chose. Abu Dhabi a dévoilé aujourd'hui une liste de 311 œuvres d'art majeures qui vont être prêtées par la France au Louvre Abu Dhabi, musée universel qui doit ouvrir ses portes en décembre 2016.
Alors il faut d'abord rappeler ce que c'est que ce projet du Louvre Abu Dhabi. C'est un projet sans équivalent jusqu'ici. Il est issu d'un accord entre la France et l'Émirat en 2007. Le but pour Abu Dhabi, créer le premier musée universel du monde arabe, donc musée universel dans la notion 18e-iste avec toute l'histoire de l'art couverte. Annoncé pour 2012, le projet a pris beaucoup, beaucoup de retard. Il a souvent changé de main côté français. La collection permanente, qui est pensée par des conservateurs français, est en cours de constitution. Et pour la compléter, Abu Dhabi annonce qu'elle va se faire prêter exceptionnellement sur 10 ans 300 œuvres d'art, attention, les plus grandes. Donc des œuvres qui ne seront pas exposées pendant 10 ans, mais qui vont tourner un an chacune, comme l'explique Céline Pouya, chef de projet à l'autorité pour le tourisme d'Abu Dhabi, qui travaille sur le projet du musée depuis ses débuts.
Parmi certains chefs-d'œuvre que l'on peut citer, évidemment, il y a la Belle Ferronnière de Leonardo da Vinci, et ces œuvres feront écho à la collection. Donc Leonardo da Vinci fera écho à la Vierge à l'Enfant de Bellini. Une autre œuvre de la Bibliothèque nationale qui est un globe de Coronelli fera écho aussi à un astrolabe qui appartient à la collection. Et puis dans la période plus récente, vous trouverez le fifre de Manet, musée d'Orsay, qui fera écho au bohémien du Manet qui a été acquis par le Louvre Abu Dhabi. C'est très important de comprendre aussi que le musée Louvre Abu Dhabi sera un musée autonome et indépendant du point de vue de sa collection. Alors aujourd'hui, bien sûr, pour que cette histoire du musée universel soit complète, il faut des prêts français, mais au fur et à mesure, les prêts vont diminuée pour laisser place à la collection permanente.
Alors ces prêts étaient prévus dans l'accord de 2007 depuis le début, en échange évidemment de quelques deniers.
Voilà, le but c'est qu'Abu Dhabi a payé une fort belle somme pour avoir en 10 ans un musée à lui, clé en main. Véritable manne en fait finalement cet accord. Même si on n'aime pas beaucoup s'étendre dessus côté Émirati, l'Émirat payera en tout 965 millions d'euros sur 30 ans. On compte 400 millions juste pour utiliser le nom du Louvre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il l'a, mais ça ne concerne pas que le Louvre, puisqu'il y a 190 millions pour emprunter des œuvres au musée français et 13 millions qui sont destinés à ces fameux musées contributeurs qui sont 13 institutions françaises et musées qui sont impliquées. Céline Pouillat l'explique.
Il y a plusieurs institutions, il y a 13 institutions qui sont prêteurs, et ces institutions, comme le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le centre Pompidou, le musée du Quai Branly et bien d'autres, permettent à la collection de pouvoir compléter cette narration et ce fil conducteur du musée universel. Et je dirais aussi que grâce à ce partenariat, les équipes émiriennes peuvent bénéficier de l'expertise des musées français dans le domaine de la muséologie, dans le domaine de l'éducation pédagogique dans les musées, pour pouvoir ensuite créer ici à Abu Dhabi un musée qui soit évidemment associé, si vous voulez, aux grandes exigences scientifiques internationales, mais qui ait sa propre identité culturelle aussi.
Voilà, donc le but c'est que ce musée de Louvre à Abu Dhabi, il roule tout seul dans 10 ans, une fois qu'il aura acquis le savoir-faire des conservateurs français et qu'il aura évidemment appâté son public avec ses fameux 300 chefs-d'œuvre. Car même si on les prête pour 10 ans en rotation, ils seront tous là lors de l'inauguration le 2 décembre 2015.
Et tout de suite, les brèves.
Le directeur de l'opéra de Saint-Étienne et deux collaborateurs à lui sont été mis à pied par la nouvelle municipalité de droite. Mis à pied de 3 mois, sans salaire. Cette municipalité parle aussi d'engager une procédure de licenciement. Elle pointe de graves dysfonctionnements financiers. Et en matière de sécurité, on y reviendra dans le journal La Culture.
Le château de Chambord et le palais d'été de Pékin sont jumelés.
Jumelage symbolique très fort, puisque l'ancien palais d'été a été saccagé au 19e siècle par des soldats français. Les deux sites ont pour la particularité commune d'être inscrite dans un cadre naturel. Évidemment, le château de Chambord dans un très
grand
parc
sera aussi saccagé par des soldats
chinois. Non, quand même pas. Ah bon. Mais c'est très militaire, vous avez raison, c'est le plus grand domaine de chasse de France, Chambord.
Manuel Valls soutient la candidature de la France à l'Expo universelle de 2025.
Et les projets de candidature doivent être déposés avant 2016. La France est candidate déjà la semaine dernière. Anne Hidalgo, maire de Paris, s'était dit favorable. Et aujourd'hui, le Premier ministre indique que l'État sera au rendez-vous de cette grande ambition.
Et la dernière ?
Alors c'est l'histoire du triomphe de la contre-culture. Notre ami Benoît Lagane va être heureux. Je vous l'expliquais la semaine dernière, vous vous rappelez, je vous avais parlé d'eBay qui lance des enchères d'œuvres d'art en ligne avec des grandes maisons partenaires. Alors on disait que selon les œuvres, ça irait de quelques milliers d'euros à 100 voire 200 000 euros. Et cette semaine, écoutez, déjà, il y a une collection, mais pas d'œuvres d'art, mais presque, qui a été mise aux enchères sur le site et qui est estimée à moins de 130 000 euros. Collection de quoi, mon cher Laurent, vous allez être ravi. Eh bien, de jeux vidéo. Et oui, pas moins de 5700 vieux jeux vidéo et quelques 50 consoles portables et deux salons forment cette magnifique collection très bien espimée, vous le voyez. Essentiellement du vieux jeu bien vintage, comme on les aime, avec notamment l'intégrale des Mario et de Zelda, librés avec boîte et notice, précise le collectionneur.
Ah oui, sinon ça ne marche pas. Voilà. Pour les collectionneurs, il faut même que les boîtes ne soient pas ouvertes, certaines fois.
Bah écoutez, mais ils font ça comme des vrais, mon cher ami, avec évidemment des consoles Nintendo, Sega, années 80, 90, je suis sûre que ça vous excite beaucoup.
Tout m'excite quand il s'agit d'argent. Vous le savez parfaitement. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités ?
Est-ce qu'il y a des Atari dedans ?
Ah bah bien sûr qu'il doit y avoir tout ça.
Je suis sûr qu'il a tout ce qu'il faut.
Ah bah oui, je suis sûr qu'il y a tout ça.
J'espère sur eBay. J'espère que les spectateurs de Sandbad n'urineront pas sur les fauteuils.
J'espère quand même. Enfin, il n'y a rien dans le film qui permette ça.
Non, je n'ai pas l'impression.
Non, il n'y a rien qui permette ça.
Et puis les gens qui veulent aller voir Annabelle, si c'est déprogrammé, bah, qu'ils viennent.
Ah, alors lui, là, c'est vraiment, c'est pas possible.
Non, bah, on peut quand même.
Eric Toledano, il mange à tout. Hein.
C'est moi, Eric Toledano.
C'est lui. Ah ouais, c'est vrai.
Non, mais ça va.
Ça, c'est le problème des duos. On ne devrait jamais inviter des duos. Non, les frères d'Ardenne, c'est parfait, tous les deux, c'est d'Ardenne. Mais là,
c'est compliqué.
Là, c'est plus compliqué.
Un moyen mnémotechnique, Eric, c'est le blond. Comme ça, vous.
Ça, oui, mais j'aurais oublié, parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Donc, dans 2 secondes, j'aurais complètement oublié ce que vous venez de me raconter. Serge Joncourt, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter ?
Oui, non, je trouve ça très drôle, le fait de ce quiproquo permanent. C'est pas la première fois que ça vous arrive, je crois, non, Olivier, Eric. Pourtant, c'est simple, en fait. Mais...
Oui.
Oui. Non, mais je vais vous dire, dans la démarche, je trouve ça très intéressant. Ils ne sont pas les seuls à faire des films à deux.
Non, bien sûr.
Il y a toute une filiation. Les romans, c'est plus rare. C'est même très rare.
C'est même très rare, oui.
Et du coup...
Dans les Polars, on avait reçu ici Erkman. C'est deux personnes. C'est
oui,
une personne...
Claude Disner, c'est deux femmes.
Deux femmes qui écrivent ensemble.
Là où ça devient intéressant, vraiment, c'est quand il s'agit de parler de son travail, parce qu'il y a une sorte de délégation réciproque qui fait que finalement, l'un et l'autre se reposent l'un sur l'autre.
On va voir comment ils se répartissent les rôles. Vous avez des rôles bien répartis d'ailleurs.
C'est comme au gouvernement, il y a un porte-parole qui parle au nom du...
Je ne sais absolument pas qui est en train de parler.
Écoutez, je vous rappellerai, Patrick, je vais donner un moyen très simple. Sa sœur est comédienne, donc on lui dit toujours, tu ressembles à ta sœur, donc pensez à Géraldine Nakache, elle lui ressemble.
Ah ben voilà, tout de suite ça y est, vous voyez, ce moyen mnémotechnique.
Et moi, les gens qui se trompent me disent « j'adore ta sœur » et je réponds « allez gastro, ça m'étonne que tu l'adores voilà. ».
Très bien. Bon, on va commencer.
19-20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau tellement proche avec vous, Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateur et scénariste, un duo qui fonctionne depuis le milieu des années 90. Il y avait des courts-métrages avant de passer au long avec « Je préfère qu'on reste amis ». Il y a eu « Nos jours heureux », un film d'inspiration autobiographique sur votre expérience d'animateur de colonie de vacances en 2006. Bien sûr, le succès d'Intouchables avec François Cluzet et Omar Sy. Et puis Omar Sy, qu'on retrouve mercredi prochain dans votre cinquième long-métrage « Samba ». L'histoire en quelques mots. Samba est un sans-papier d'origine sénégalaise. Il vit à Paris depuis 10 ans. Il multiplie les petits boulots, mais il doit régulariser sa situation. Et voilà qu'il rencontre Alice, jouée par Charlotte Gainsbourg, une cadre victime d'un burn-out et qui va donc, comme elle travaille aujourd'hui bénévolement dans une association d'aide aux sans-papiers, elle va donc l'aider, si elle y arrive. Bande annonce.
Ok, alors je t'explique en gros, ici on a 48 heures pour aider les types à sortir. Un fois moins, donc faut se manier. Bonjour, c'est quoi votre nom ?
Samba Cissé.
Vas-y, note, Alice.
En fait, je travaille dans la restauration depuis plusieurs années déjà. J'avais fait une demande de titre de séjour. Ils m'ont embarqué.
Putain de ça reste.
C'est ça, j'ai pensé aussi.
Je note pas ça. Ça se trouve, pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty free.
Ah, carrément.
Je vais te donner un conseil. Faut garder la distance, parce qu'après, ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés.
Vous savez, en 10 ans, j'en ai fait des associations. Et vous, vous êtes quand même spécial.
Spécial.
Merci, Alice, pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup.
C'est bien, je t'attache pas. T'as bien compris l'histoire de la distance, là.
Ta gueule.
T'es franche, c'est cool.
Je sais, mais ta gueule, quand même.
T'es chaud lapin, toi.
Non, arrête. Non, c'est pas chaud lapin. Non, c'est pas lapin. Non.
Hé, hey, tu connais la petite Coca-Cola ?
Quoi ? Non, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Arrête, s'il te plaît. C'est fini, Coca, là, terminé. Retournez travailler, c'est fini.
Ça va, viens. Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça, je peux pas, c'est pas possible. Bon,
balance les pompes.
Qu'est-ce que t'as fait, là ? Bah, tu m'as dit balance !
Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce que vous faites ici, avec un mec comme moi, à 3h du matin ?
Ne va pas te compliquer la vie avec une fille, maintenant. Tu vas t'attirer encore des ennuis.
Eh ben, ils vous ont pas arrangé, hein.
La bouche, c'est bon. C'est plus au front, la blessure.
Ah oui, pardon.
Alors, avant la réalisation, il y a eu le travail de scénariste. Samba est une transposition au cinéma de deux livres. D'une part, le roman Samba pour la France de Delphine Coulin, qui était centré sur son expérience dans une association d'aide aux migrants. Et puis, il y a un essai sur le burn-out de Pascal Chabot, qui avait été publié au PUF. Comment ces deux livres, apparemment très éloignés, se sont-ils télescopés pour ce projet ? La question d'abord au scénariste.
Eh ben, écoutez, c'est, je pense, une sensibilité à
ces,
ces deux sujets qui se sont cooptés. Il y avait l'envie de poursuivre avec Omar un travail qui a été fait depuis quelques films maintenant. Et
4 films sur 5.
Et puis l'idée majeure d'un gars qui nous dit qu'il n'est pas acteur. Donc je ne sais pas pourquoi ça nous a motivés à essayer de lui démontrer qu'il était acteur. Depuis le début, il a dit arrêtez de m'appeler, je ne suis pas comédien, je n'ai pas cette verve-là. Et puis nous, on a essayé à chaque fois de le pousser ailleurs. Et voilà, c'était l'envie de peut-être jouer une histoire plus contemporaine et la sensation qu'Omar pouvait le faire. Et puis peut-être les conséquences d'Intouchables nous ont donné plus de sensibilité à l'idée du burn-out. pas,
parce que
pas
c'est ce que vous avez presque vécu.
Non pas qu'on en ait fait un, parce que nous, on n'a pas la dimension de souffrance qui existe dans, cette, dans ce problème. Mais voilà, il y a eu y a quelque chose où vous êtes happé et vous ne vous appartenez plus. Vous sentez que vous êtes un petit peu ailleurs, etc. Donc, quand on est tombé sur ce livre de Pascal Chabot, Global Burnout, qui décrit exactement tous les symptômes de ce qu'il appelle une pathologie de civilisation. C'est-à-dire que ça devient un symptôme qui est de plus en plus fréquent et qui se manifeste de façon de plus en plus étrange. Et on s'est dit... alors, il y avait quelque chose d'incroyable dans le livre. Il disait qu'il y a énormément de gens qui perdent le sens de l'existence, et qui viennent se ressourcer dans des associations. Et voilà, le lien s'est fait à ce moment-là.
Serge Joncourt, je vous ai vu prendre une note juste à l'instant en réaction à...
Non, je notais l'essai. Non, parce que j'avais entendu parler de Delphine Coulin, d'ailleurs, qui elle-même réalise. Hein, en
fait. Absolument.
17 filles, hein, c'est ça son film. Mm-hmm.
Absolument, qui était remarquable. Ouais. Et je suis souvent fasciné par le fait qu'il y ait souvent un roman derrière un film. Là.
Bah, ça vous arrive, ça vous est arrivé, puisque deux de vos romans
oui,
ont
moi,
été
c'est
adaptés
dans l'autre
au
sens,
cinéma.
Oui, ouais. Et cette filiation entre roman et film me fascine un peu, et je l'ai un petit peu étudié comme ça, personnellement. Enfin, bon, voilà. Mais Global Burnout, je n'avais pas... Ça m'avait échappé.
Par exemple, pour le film de Xavier Giannoli, vous aviez participé. Le livre s'appelait L'Idole et le film s'appelait Superstar. Vous aviez participé aussi au scénario avec eux ?
Non, Xavier l'a fait de son côté. Moi, j'avais fait un roman plutôt dans la comédie, justement. Enfin, et lui voulait un petit peu une tonalité complètement différente, presque grave. Ouais. Donc, il l'a fait dans son coin. Mais, l'idée étant la même, de considérer qu'un homme est célèbre, il ne sait pas pourquoi, et à partir de ça, sa vie en est...
C'était avec Cadmérade et Cécile de France. Absolument. Benoît Lagan.
Oui, vous évoquiez à l'instant Omar Sy. Avec le recul et le temps, au bout de 4 films, quel documentaire sur Omar Sy acteur avez-vous eu l'impression de signer, Éric Toledano, Olivier Nakache?
Vous voulez dire tout au long des...
Oui, tout au long des films, parce que finalement, suivre un acteur, c'est faire son documentaire.
Oui, mais peut-être que c'est à la fois, comment dire, Olivier c'est à la fois inconscient et conscient. C'est-à-dire qu'on a grandi avec lui ensemble, on a fait un court-métrage avec lui et il s'est passé quelque chose. Déjà, nous, on est deux, donc ça fait déjà deux points de vue. Et on s'est rapidement rendu compte qu'il était le prolongement de nous deux, en fait. C'est un peu un mélange de nous deux, Omar. Et ça a été après très agréable, inspirant et motivant d'écrire avec lui en tête. Et c'est marrant parce que quand on regarde nos films, il y a toujours une filiation. On a commencé avec un acteur, Gérard Depardieu, qui est quand même l'acteur en France. On a mis Jean-Paul Rouve, qui était un nouveau venu. Ensuite, Jean-Paul Rouve, il est passé en premier rôle. Omar Sy est arrivé en second rôle. Et
vous l'avez confronté à François Cluzet, même voilà, histoire que Depardieu. François Cluzet, acteur installé.
Exactement.
Et c'est Omar Sy qui va, en effet, progresser dans le suivant.
Donc, à chaque fois, on a eu envie soit de repousser des limites ou de se mettre des défis ensemble. Film après film, quoi. Et c'est vrai que après Tellement Proche, il a été motivant pour Intouchable, inspirant. Et après Intouchable, pareil, on a eu envie de poursuivre ça avec lui. Et c'est à la fois conscient et à la fois inconscient.
Alors avec Samba, c'est la première fois que vous mettez en scène un duo homme-femme. Parce qu'avant, vous aviez soit des couples masculins, vous venez d'en parler, hein, Depardieu et Rouve dans Je préfère qu'on reste amis, ou Omar Sy, Cluzet dans Intouchable, ou alors des collectifs, par exemple les animateurs de la colo dans Des jours heureux, ou alors deux familles dans Tellement Proche. Pour la première fois ici, on a un canevas de comédie romantique, même s'il est subtilement désamorcé. Omar Sy, donc, aux côtés de Charlotte Gainsbourg. Qu'est-ce que ça change pour vous d'écrire donc pour une femme en premier rôle ?
Je crois que déjà, on était un petit peu faible sur ce domaine-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait un peu peur de s'attaquer à des personnages féminins.
Pour quelle raison ?
Sûrement parce que tous les deux, on était, je ne sais pas, peut-être c'est culturel. Je ne sais pas. En tout cas, on maîtrisait
mal. C'est culturel.
Je ne sais pas. On avait nos rapports avec nos mères. Je ne sais pas. Il y a un truc avec les femmes. On n'arrivait pas à les voir autrement. D'ailleurs, si vous regardez la filmo d'avant, elles sont toutes un peu givrées, les femmes.
Ah, complètement folles, oui.
Voilà. Donc, on avait
Charlotte Gainsbourg ne va pas très bien non plus.
Oui,
mais elle n'est pas surexcitée. Elle est plutôt voilà. sur un domaine.
Quand je dis givrée, c'est-à-dire qu'elles étaient un peu trop. Quoi. Oui. C'est-à-dire Joséphine Demeaux pète les plombs dans Nos Jours Heureux. Audrey Dana est complètement folle dans Tellement Proche. Il y a qu'Isabelle Carré qu'on avait commencé à
son nom l'indique. Hein,
voilà, exactement.
Elle arrivait à calmer quelque chose dans le jeu.
Mais je crois qu'on avait envie de s'attaquer à ça, mais il nous fallait une motivation. En fait, on parle beaucoup des acteurs, comme il parlait d'Omar, dans une motivation. Je crois que Charlotte, elle nous a inspirés. Mais je ne pense pas qu'avant Intouchable, on y avait réellement accès. Je pense que si on l'avait appelé, ça aurait été plus difficile. Donc, on a tenté après.
Et après, c'est vrai, je regardais un documentaire sur Woody Allen qui parlait des femmes, et il disait que ses névroses s'étaient vachement mieux incarnées en Diane Keaton et Mia Farrow, qu'en n'importe quel de ses personnages masculins. Et je partage cette analyse, même si je ne suis pas à son niveau, qu'on peut arriver à communiquer quelque chose d'encore plus fort sur des personnages féminins. Et c'est la première fois que ça nous arrive.
Alors à propos de Woody Allen, et bien justement, nous demandons tous les soirs à nos invités de nous soumettre une idée de son. Et voilà ce que vous avez choisi. Identification de ce son, qu'est-ce qu'il a choisi entre Eric Toledano et Olivier Nakache ?
Tous les deux.
Tous les deux. Pour quelle raison ?
Parce que dès qu'on entend ça, on a l'impression d'entendre derrière « You know, I'm just, you know, it's amazing !»
Quand on entend Billie Holiday, voilà, on entend Woody Allen derrière, c'est ça.
Exactement. Oui, parce que c'est aussi quelqu'un qui arrivait tellement à comprendre que la musique... Alors lui, il a choisi des musiques intemporelles. Le jazz qui fait que ses films ne sont pas démodés. C'est-à-dire qu'on peut les voir... très longtemps après leur création, il n'y a pas quelque chose qui date de l'époque. Revoyez un bon classique des années 80, vous allez entendre un synthé qui va vous mettre un bourdon pas possible. Là, il y a quelque chose, il accompagne ces films d'un univers et je trouve que c'est tellement identifié que... Et puis ça nous relie bien Woody Allen, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup parlé.
Alors parallèlement à la sortie mercredi de Samba, vous publiez votre intégrale en coffret DVD. Notre réalisateur Thomas Beau en a profité pour regarder tous vos films et les faire dialoguer, des films marqués par un vrai sens de la réplique, car c'est aussi ça votre cinéma, montage.
Gueux. Voilà, ça c'est j'ai faim.
Tu veux que je rallume la télé ?
Ben j'aimerais bien, oui.
Bienvenue à tous au musée de la pantoufle et de la charentaise.
Je me propose de vous aider à réaliser votre projet affectif.
Quelle est votre principale motivation ?
Écoutez, je suis pas au bout du rouleau.
Ta vision, mon cher Daniel, me paraît, comment dire, assez navrante.
Je fais pas ça, moi. Je vis pas le cul d'un mec que je connais pas.
Eh ben !
Ah bon ? Et pourquoi ?
On va vous expliquer tout ça.
Mais Marcel, faut qu'on parle, parce que la formation, là, excuse-moi, mais il y a un problème, là.
Réfléchissez. Votre vie peut changer.
Non mais qui a touché à l'interrupteur des toilettes ?
Silence ! Je veux plus un bruit dans cette salle !
Moi, je suis heureuse ici.
Comment ?
Je suis...
Parle plus fort, là, parce que vraiment, c'est chiant, hein.
Calme-toi! Tu peux nous la prêter une minute quand même!
Roxane!
Non mais c'est fou ça! On peut prêter un bébé une minute!
Tu vas jamais taper ta gueule! Tu mets ça, je te dis!
Alors si t'es pas content, tu te casses! La porte est grande ouverte!
On va pas rester là tout de même.
Bon, je vais récapituler parce que vous avez l'air un petit peu perdu.
Non, je vous assure, ça va.
Très bien, alors si je vous dis gars.
J'ai sommeil.
Eh non, gueux, c'est j'ai faim.
On peut arrêter les vannes.
C'est bien l'humour, note, c'est bien.
Je coche.
Intouchable, nos jours heureux, tellement proches, je préfère qu'on reste ami, Benoît Lagan.
Oui, ce que l'on entend donc dans ce montage, c'est votre goût pour la réplique. D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous aimiez entre vous jouer des répliques de films qui vous ont marqué. Quel film, quelle réplique, par exemple ?
Alors,
Eric Toledano.
Par exemple, il y a des films... Alors après, ce n'est pas toujours des films qui nous ont inspirés, mais la génération magnétoscope a créé un dérèglement dans le cerveau. Il y a des dialogues qu'on a intégrés, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là. Donc, par exemple, Olivier connaît les dialogues de la crise de Colin Serrault par cœur.
Ah oui,
voilà, il peut vous les
vu,
faire.
Revu et re-revu.
Lance-toi, Olivier, lance-toi.
Ah ben non, on ne va pas les faire. Non, attention, c'est un jeu dangereux.
Lance-toi, vas-y.
Ce qui trahit le prolo plus que tôt, c'est les queues. On ne dit pas 4, mais 4. On ne dit pas septembre, mais septembre. Par exemple, répète, appelez-moi. Mais là, il faut m'arrêter parce que je peux faire tout le film. Donc
Et vous, Eric Toledano, ça serait quelle dimension ? C'est bizarre hein, quand même d'avoir choisi quelque chose qui est en écho d'ailleurs avec votre propre cinéma, la comédie sociale de Colin Serrault.
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je n'ai pas le don d'Olivier qui est plus acteur que moi, etc. Mais je peux, de temps en temps, j'ai des dialogues de films qui reviennent. Voilà.
On s'est souvent joué Je vais craquer, un film avec.
Un film d'une BD adaptée de la Course du Rat, de Lozier, où Clavier disait n'importe quoi, toujours. Il disait, je suis comme un rat dans un labyrinthe. Enfin voilà, c'est des phrases, mais elles sortent du contexte. Alors, je préfère quand Olivier fait l'imitation de Colin Serrault.
Ce travail des
Vous
dialogues.
Vous me dites extrait et j'envoie un extrait de la critique.
Ah, j'adore ça. Ce travail des dialogues me semble assez proche de ce qui signe en fait le phénomène du stand-up. D'ailleurs, vous avez signé un de tous vos Oh, mais c'est dingue, le lundi. On ne devrait jamais faire des trucs le lundi, on devrait commencer le mardi. Donc, d'ailleurs, vous avez signé un de vos tout premiers courts-métrages avec Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Le stand-up, est-ce que c'est une filiation que vous pourriez revendiquer ? Sachant oui. que c'est une filiation notamment pour Omar Sy.
Oui, parce que le stand-up, c'est alors dans la forme, ça reste de l'observation très chronique de situation. Et là, vous étiez en train de passer un extrait de Audrey Dana qui essaye d'expliquer comment on interprète les sons d'un bébé.
À une babysitter.
Voilà, ça pourrait être un sketch, parce que c'est vrai que nous, on est parti d'une idée quand on a eu nos bébés, c'est qu'il y a plein de gens qui ont voulu nous expliquer que les sons qu'ils émettent au départ ont une signification. Donc on est parti, on trouvait ça complètement débile. Il y a quelqu'un qui nous a expliqué que gueux, ça voulait dire ça, et basse, boop, ça voulait dire ça. Et en fait, voilà, ça fait partie d'un truc qui aurait pu être dans le sketch.
Mais c'est vrai que les stand-upistes, je ne sais même pas si ça se dit, comme Gad ou comme Jamel ou comme d'autres, ils captent quelque chose et ils ont l'impression de... Sur une salle de 1000 personnes, ils parlent à tout le monde. Quand Gad fait son sketch sur Ikea, ça nous est tous arrivé. Quand il parle de la coupelle près du salon où il y a toutes les merdes qu'on ne veut pas mettre, comme une pile ou un bouton de manchette au cas où. Voilà, c'est des choses qu'ils captent et c'est vrai qu'ils transforment des choses du quotidien en sketch. Et nous, c'est vrai que souvent, on se raconte, on échange tous les deux en disant « Tiens, il m'est arrivé ça » et tout de suite, ça devient une scène.
Par contre, on aurait été incapable de faire du stand-up parce que nous, on passe vraiment par l'image. C'est quelque chose qui nous motive beaucoup plus que d'être seul sur scène. Je trouve ça suicidaire.
Et son sketch sur les banques actuellement dans les publicités, qu'est-ce que vous en pensez?
Justement, c'est pas un sketch.
Voilà. Benoît.
Alors, pour Samba, vous revendiquez l'influence du cinéma italien, les comédies sociales des Torrescola, de Dino Risi ou encore de Mario Minicelli. Qu'est-ce que votre cinéma doit à ce cinéma-là,
à cette période ? Est-ce que c'est en termes de scénario, en termes de casting ?
Déjà, il y a deux événements majeurs dans le cinéma italien. C'est que d'abord, c'était des comédies sociales qui étaient traitées avec... Enfin, des sujets graves qui étaient traités avec humour. Et ensuite, je trouve que c'est l'admiration qu'on a pour les comédiens à cette époque. Pendant longtemps, il y avait une photo de Vittorio Gassman dans notre bureau. On ne savait même pas qu'on avait cette envie d'être aussi proche parce qu'on s'est trouvé avec le temps, et le coffret le montre bien. Avec le temps, cette filiation assumée avec des films comme Le Fanfaron ou comme Parfum de femme et Intouchable, c'est une vraie filiation. Rigoler, rire comme ça ou montrer les vices d'un ancien gars de l'armée aveugle et de sa relation avec ce petit jeune, etc. Donc c'est les grands acteurs, les grands sujets et la détente dans la façon de le traiter.
Serge Joncourt, un commentaire ou une question ?
Non, non, mais Gassman, c'est effectivement une référence absolue, totale, et à la fois une... Il y a une nature aussi, au-delà du travail du comédien. Et il me semble que souvent, vos comédiens avec qui vous travaillez sont des natures avant tout.
Oui, c'est exactement ça. Comme Mastroianni, Gassman, ce sont vraiment... Ventura, c'est des gens qui avaient un charisme inné. Et nous, on pense que Omar a ça. Il a une puissance qui est un peu... qui est inné, et c'est vrai que c'est lié avec ces acteurs-là. Et quand on voit n'importe quel film de Vittorio Gassman, il amène la grâce avec lui quoi, dans les films.
Dernière question, pour votre premier film, Je préfère qu'on reste amis, vous avez présenté votre scénario à Gérard Depardieu, et vous êtes resté face à lui pendant la lecture de votre scénario, de la première à la dernière page. Quel souvenir vous gardez de cette attente ?
C'était complètement dingue, parce que le contexte est que nous n'avons fait aucun film, et qu'on a attendu 4-5 ans après les courts-métrages pour faire un film, et que c'était un autre acteur qui devait faire le film, qui a planté, comme c'est souvent le cas dans le cinéma, et on avait complètement commencé à se résigner à l'idée que le film n'existerait jamais, quand Jean-Paul Rouve a dit « Attendez, je vais l'envoyer à Depardieu », qui nous a dit « Venez chez moi à 14h ». Donc on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. On a juste sonné, on a vu un colosse ouvrir la porte, il a mis des petites lunettes. Et au lieu de... Il a en fait lu le scénario avec
Avant,
nous.
Avant, il t'a dit « Toi, tu sais faire du café ».
Oui, il m'a dit « Toi, tu sais faire du
Alors
café ».
On va faire du café.
Et on s'est assis, et ça a duré une heure et demie, et on l'a regardé jouer. En fait, quand c'était pas lui, il jouait pas. Et quand c'était son rôle, il jouait.
Il jouait pendant qu'il lisait le scénario.
Voilà. Mmh. Et du coup, ça a duré 2 heures. Il a fermé. C'est un moment historique pour nous, je vous le dis, avec l'émotion dans la voix. Il a fermé le scénario, il a dit on fera ça en janvier. Voilà.
Il a lu le scénario en même temps que nous, avec nous, quoi.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur. Extérieur.
Éric Toledano, Olivier Nakache et Serge Joncourt, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire du lundi autoportrait de Manou Farine. Ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, ce sera le scénariste Olivier Gorce. Manou.
Olivier Gorce, oui, à qui on doit notamment l'écriture de Deux bons matins de Jean-Marc Moutou et d'Omar Mathieu de Roche Dizem. Roche Dizem, pour qui il écrit, enfin il boucle en tout cas l'écriture du prochain long métrage autour de la figure du clown chocolat.
Avec dans le rôle-titre.
Précisément. Et je l'ai rencontré ce midi.
Questionnaire cinéma, Olivier Gorce, Manon Farine.
Le cinéma que vous associez à vos parents ?
Sauter, spontanément. Parce que c'était les films du dimanche soir.
Premier scénario écrit ?
Co-écrit. Les autres filles, un premier long métrage réalisé par Caroline Vignal sur des jeunes femmes en école de coiffure. J'étais en apprentissage en fait, de cette écriture particulière. En fait. J'aime bien le terme d'écrivain de cinéma qu'utilisent les Américains pour ça, mais cette espèce de mélange de technique et d'intuition et de style et de savoir-faire en fait, qui donne cette œuvre très singulière qui est à la fois nécessaire et qui est destinée à finir à la poubelle, qui est le scénario. Donc je n'étais pas encore à l'époque totalement sûr d'être à ma place.
Le scénario que vous n'avez jamais terminé ?
C'est plutôt une histoire de roman que je n'ai jamais terminé. Justement, si je suis devenu scénariste, c'est parce que j'arrive à terminer les scénarios.
Première erreur de scénariste.
Ah, croire qu'on peut passer en force avec un réalisateur, parce qu'en la tradition du cinéma français, d'un certain cinéma d'auteur notamment, on travaille quasiment systématiquement avec le réalisateur. Et c'est de penser qu'on peut un peu lui fourguer une idée parce qu'on est absolument sûr d'avoir raison dramaturgiquement parlant, etc. Si ce n'est pas fait sienne, de toute façon, il tournera mal la scène ou il ne la montrera pas. Donc en fait, avant, je me battais peut-être plus des fois pour essayer de convaincre. Maintenant, si je sens que ça résiste, ce n'est pas la peine.
Un scénariste qui pourrait faire modèle ou référence pour vous ?
Peut-être Paul Schrader. Disons que c'est une lignée du cinéma indépendant américain extrêmement radical dans la mise en œuvre, frontal dans le sujet et à la fois qui est nourri d'une efficacité dramaturgique à l'américaine qu'on retrouve, je trouve, de plus en plus dans un jeune cinéma français en fait, qui maintenant peut aussi bien citer Sean Penn que un Coréen du Sud, que Piala en fait. Et je trouve que ce mix est assez intéressant.
Un film ou un téléfilm qui serait une leçon de scénario pour vous ?
Barry Lyndon. C'est un grand drame, une grande tragédie, tout ce qu'on veut. Mais sans jamais se laisser embarquer dans la pesanteur historique, la reconstitution, etc. C'est-à-dire que c'est toujours au cordeau des situations et du coup dans une espèce d'épure et d'émotion que je trouve extraordinaire.
Ce qui a changé en 20 ans dans la pratique de votre métier ?
Il y a une espèce de bascule vers une obligation de résultat, une obligation de casting. Par certains aspects, ça peut être des questionnements intéressants, c'est-à-dire comment, dès le début, trouver le sujet qui va rendre le film un peu plus universel, un peu plus accessible. Mais à la fois, il y a vraiment une fragilisation économique de tout un tissu de la production indépendante qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de réalisateurs qui ont du mal à monter leur film.
L'autre métier que vous auriez pu faire ?
À part être plus écrivain, je ne vois pas trop.
L'histoire ou le scénario que vous auriez aimé vivre ?
J'adore les histoires de vengeance, en fait, je m'aperçois que c'est quand même un des moteurs qui marche le mieux. Donc c'est terrible parce que ça part toujours d'une souffrance. J'aurais pas voulu être le petit enfant à l'harmonica dont il était une fois dans l'Ouest, mais à la fin, quand il le bute, quoi, ça doit quand même être une grosse jubilation.
Olivier Gorce, merci.
Une réaction, Eric Toledano, Olivier Nakache, Serge Joncourt, par rapport à ce que l'on vient d'entendre. Serge Joncourt.
Non, le sous-texte de son propos, c'est finalement, c'est plus facile d'écrire un scénario qu'un roman.
Oui.
Mais j'en suis pas sûr.
Vous qui avez d'ailleurs signé aussi un scénario.
Oui, mais souvent le scénario, on se met à plusieurs. Deux, trois. J'aime bien regarder moi les fiches techniques des films. C'est très rare qu'il y ait une seule personne au scénario. Donc je ne suis pas sûr que le scénario soit plus facile à écrire que le roman. Le scénario ne permet aucune hémorragie de soi. Il faut vraiment couper à tout moment. Le roman, on a un peu plus de marge.
Jamais eu le désir de roman d'ailleurs de votre côté, Eric Toledano, Olivier Nakache ?
Je ne sais pas si on en aurait le talent, je ne sais pas. Mmh. C'est peut-être plus tard, mais le théâtre peut-être, mais pas encore le roman.
En tout cas, ça a été intéressant pour nous là, de travailler avec une romancière, avec Delphine Coulin et sa sœur, parce que c'est la première fois qu'on ouvrait un scénario. Et c'était très agréable d'échanger et de trouver notre point d'équilibre entre elles qui ont leur univers, qui serait a priori loin de nous, et le nôtre. Le point d'équilibre a été, le point d'équilibre, c'est Samba. Donc, on a trouvé que c'était très enrichissant.
Et à l'origine du film, il y a le casting pour vous ? Vous avez déjà le casting en tête ? Le casting
on est obligé de... Ouais, même
avant
si
même,
ça change beaucoup.
Oui.
Et c'est, par exemple, Intouchable, c'est maintenant au-dessus de tout ce que Daniel Auteuil devait faire le film et qu'il s'est désisté quelques mois avant, quelques semaines avant même. Donc, mais ce n'est pas grave parce qu'on l'a écrit avec lui en tête. Et c'est presque... On a besoin de chair, d'incarnation. Parce que sinon, on a l'impression qu'on n'arrive pas à voir qui va être le personnage.
Et le premier, donc, pour Je préfère qu'on reste amis, c'est Gérard Depardieu qui a eu le rôle, mais c'était prévu pour ?
C'était prévu pour Gérard Darmon.
Bon, ça restait un Gérard, ça va encore.
Oui, il fallait que ce soit un Gérard.
Ça, il fallait que ce soit un Gérard.
Junio, sinon on aurait été voir Junio après.
Plateau dans les bois avec vous, Serge Joncourt, écrivain, scénariste, membre éminent des Papous sur France Culture. Vous signez aujourd'hui l'écrivain national, c'est chez Flammarion. L'écrivain, c'est Serge, même prénom que vous, invité à Donzières, une petite ville entre Nièvre et Morvan, pour une résidence littéraire avec son lot d'ateliers, d'animations culturelles, de rencontres en librairie. Un écrivain qui va se porter volontaire pour enquêter sur la disparition de Commodore, un vieux maraîcher peut-être richissime, installé dans les bois, qui aurait été enlevé par un couple de néo-ruraux, Aurélique, qui a été arrêté et incarcéré, et la belle Dora. D'abord, une première question d'ordre purement géographique et un peu étrange. Le roman se passe entre Nièvre et Morvan. J'ai pas l'impression que ça veut dire grand-chose, parce que la Nièvre, c'est dans le massif du Morvan.
Bravo. Je l'ai fait exprès. Histoire de pas complètement assumer. De même que le village s'appelle Donzières dans le roman, alors qu'en vrai, il s'appelle Donzy. Donc je voulais brouiller les pistes, quoi, d'une façon définitive et radicale.
C'est-à-dire un roman qui ne se passe nulle part.
Si, qui se passe dans la forêt du Morvan.
D'accord.
Mais pas précisément, je veux pas préciser l'endroit, parce qu'elle est grande, la forêt du Morvan. Hein.
Et très bien écrite d'ailleurs. Est-ce que c'est d'ailleurs un des points de départ du livre? Parce que c'est un roman sur une enquête, sur un écrivain, sur les à côté de la littérature, mais c'est aussi un roman sur la nature, Serge Joncourt.
Oui, en tout cas, moi j'ai toujours besoin du décor pour savoir où je vais poser mes personnages. C'est vraiment ce qui va conditionner un peu la forêt en octobre. C'est-à-dire quand ça commence à devenir un peu périlleux, angoissant, que la nuit tombe d'un seul coup. Enfin bon, il y a comme ça une sorte de... Puis la forêt, c'est un univers menaçant malgré tout. Et le fait de... Alors lui, l'écrivain va à 10 km de la forêt. Hein, et le fait divers s'est passé à l'orée de cette forêt. Alors vous disiez, il va à la recherche de Commodore, le retraité disparu. Je pense qu'il va avant tout à la rencontre de cette...
De cette jeune femme, Dora, dont il a vu une photographie dans la presse quand il arrive le même jour. Manu Farine.
Alors l'un des motifs de ce roman, ça pourrait être donc la périphérie de l'écriture, hein, c'est-à-dire en gros la vraie vie de l'écrivain avec les signatures en librairie, les rencontres avec le public... La résidence littéraire, les relations avec les libraires. Là, en l'occurrence, un couple adorable, hein, en tout cas dans un premier temps, de libraires, avec la stagiaire, Nadège, qui pose des questions notamment sur la dette de l'écrivain envers le réel. Hein. Il y a une scène assez savoureuse.
Flippantes.
Vous-même, vous jouez à cache-cache avec ce réel dans le roman, c'est-à-dire votre écrivain s'appelle Serge, il évoque des personnages de vos propres romans, des titres de vos livres. Cette discussion-là, cette question-là de la dette envers le réel ou pas, est-ce que c'est une question qui vous intéresse ou est-ce qu'il faut la laisser à la stagiaire ?
Non, elle est fondamentale. Enfin, moi, en ce moment, je parle de ce roman que j'ai écrit pendant 2 ans, mais en même temps, je cherche plus ou moins l'idée d'un autre roman. Donc, je suis à l'affût en permanence et j'observe un peu tout. J'ai pris un verre avant de venir ici. J'observais dans le café, voilà. Je suis prêt à voler la moindre histoire et presque à les suivre, comme Jean Carmet suivait les gens dans la rue. Il disait qu'il collectionnait les personnages. Moi, c'est un peu ça aussi. J'ai besoin en plus du décor, à un certain moment, de savoir quelle est la physionomie même de mon personnage. Et quelle est, c'est pour ça que je comprends que ça aide de travailler sur un scénario avec Omar Sy en tête, parce qu'on le voit bouger, on le voit... Bon, moi, quand j'écris un roman, c'est un peu pareil. C'est pour ça que là, j'ai endossé le rôle de Serge, parce que je n'arrivais pas à le distribuer, ce rôle. Voilà, j'étais le seul personnage disponible dans ma personnage Jotec. Et à partir de là, je vais lui aussi parler du travail de l'écrivain, entre guillemets, et son rôle un petit peu social, on va dire. Parce qu'un écrivain, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui écrit chez lui, c'est aussi quelqu'un qui, à certains moments, va parler de ses livres. Alors, comme là, à la radio, un lundi matin, hein, enfin, on croit qu'on est un lundi matin, en fait, parce qu'on est tous à chercher nos mots, à bégayer et à avoir la bouche pâteuse.
Merci de m'en faire remarquer.
Oui, non, mais c'est parce que moi-même, je me rends compte en vous
parlant.
Le lundi,
c'est vraiment...
En fait, c'est un matin qui finit vers 21h, oui. Et donc, les rencontres, les lycées, les bibliothèques, les médiathèques, et le fait de se propulser comme ça au milieu des autres. Alors là, j'ai pris une ville de 1000 habitants, ça m'arrive, c'est vrai, en tant qu'écrivain. Alors ça peut susciter une forme de... Chez certains, chez les lecteurs, en tout cas, une forme d'admiration. Et chez d'autres, une méfiance totale, parce qu'ils se disent, ce type-là, il est là, il est écrivain, il va écrire sur nous, il va nous piquer nos histoires.
Écrire, c'est se dénoncer, dit votre écrivain. Un commentaire sur cette déclaration, on dirait presque un manifeste.
Non, elle est complètement anecdotique, cette phrase. C'est simplement que mon personnage donc, est dans la voiture de Dora. Hein, et finalement, il a réussi à la retrouver. Il la suit et il la suit, je ne sais pas, il ne sait pas où. Et il se rend compte qu'à certains moments, qu'il ne la connaît absolument pas, cette jeune femme. Alors qu'il se rend compte qu'elle a lu ses romans. Donc à partir de là, elle a une certaine idée de ce qu'il est, lui, de son courage, de son envergure, de son vocabulaire. Donc elle, voilà, en ce sens, écrire, c'est se dénoncer, oui. C'est se trahir, en tout cas.
Jamais tenté par l'autofiction ? Est-ce qu'il y a des petites piques par-ci, par-là dans le roman ?
Mais c'en est une très déguisée, hein, d'une certaine façon. Moi, j'aime bien me déguiser. D'ailleurs, je ne prends pas toujours les autofictions pour argent comptant. Parce que dans autofiction, il y a fiction.
Exactement, ce n'est pas le même projet qu'un projet purement biographique.
On est bien d'accord. Donc, moi, je les prends toujours avec une grande, grande distance. Et finalement, je ne sais pas si on peut établir à un moment, comme pour les alcools, le degré d'authenticité. Mais pour moi, ce roman-là, c'est un alcool fort. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de moi. Et les anecdotes, la plupart, y compris avec les maires, le titre vient du discours du maire.
Écrivain national.
L'écrivain national, ça m'est arrivé une fois. Hein. Je dirais pas la ville, mais je sentais bien que le maire voulait me présenter à ses concitoyens, ses administrés. Mais en même temps, il n'en avait absolument rien à faire de cet écrivain. Il ne m'avait pas lu. Et je n'ai pas eu de prix reluisant comme le Goncourt. Bon, donc, il ne savait pas trop comment prendre l'affaire. Il a eu cette trouvaille. Je vous présente un écrivain national. Donc, parce que j'allais en résidence 15 jours. Et à partir de là, c'est vrai que moi-même, j'en ai gagné 10 cm. Parce que
j'imagine.
Je ne l'avais pas réalisé jusque-là que j'étais un écrivain national. Et ça me poursuit. Alors évidemment, après, les jours suivants, l'écrivain national, ça devenait comme une sorte de colibet. L'écrivain national, tu ne veux pas nous aider à pousser la voiture. Enfin bon, voilà.
La vraie vie de l'écrivain. Manou.
Alors, la vraie vie de l'écrivain, c'est de lire aussi. Et vous dites avoir été marqué, notamment, hein, là je fais court, par Bouvard et Pécuchet pour le rire. Et Thérèse Raquin, qui, dites-vous, vous a appris l'espace du roman. Qu'est-ce que ça veut dire, Serge Joncourt ?
L'espace du roman ?
Que Thérèse Raquin vous aurait appris l'espace du roman. Qu'est-ce que ce roman-là vous a permis de comprendre ?
C'est l'adège un peu ce soir, Manou Farine.
Oui, je me sens face à 15 lecteurs affamés qui attendent le mousseux pétillant.
J'espère qu'il y a
mousseux. Avec les chips écrasés et les cacahuètes dessalées. Non, l'espace du roman, simplement parce que j'arrivais... C'est une sorte de roman assez simple à concevoir en tant que lecteur, on va dire. Et c'est un roman que j'aime particulièrement parce qu'il y a à peu près tout. Il y a l'amour, il y a une histoire de famille et puis il y a un peu de fantastique. Moi, j'ai glissé un peu de fantastique dans mon roman, il me semble. Enfin, j'ai essayé en tout cas parce que la forêt convoque ça. Enfin, il suffit d'être à 19h30 en ce moment là au bord du Morvan. Si vous êtes un peu perdu dans les sous-bois, je vous assure que le fantastique, vous le verrez partout et que vous entendrez des bruits bizarres qui seront affolants, quoi. Donc... C'est pour cet alliage-là, on va dire, de naturalisme et de fantastique tout, qui affleure pas loin. Voilà.
J'ai lu dans des entretiens que vous aviez fantasmé la vie de certains écrivains comme Hemingway, Malraux, Sandras. Je me demandais si vous avez voulu être écrivain avant d'écrire, Serge Joncourt.
Oui, c'est vrai que c'est pas possible. Des personnages comme, je ne sais pas, Hemingway, Romain Gary, enfin, il y a un moment. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, il ne me semble pas, quoi. Mais d'une certaine façon, même Modiano pouvait nous faire rêver, dans la mesure où il était un peu comme ça, isolé dans son réel à lui. Il était possible de vivre et d'assumer sa singularité totale dans ce monde et de refuser, d'une certaine façon, le progrès, quoi, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a moins de figures comme ça, d'écrivains qui sont... S'il y a Houellebecq, peut-être, mais bon, il est... pas simple de s'identifier, de se projeter en Michel Houellebecq. On peut le faire, tout à fait. Mais ne serait-ce que physiquement, dans les attitudes, dans les comportements. Bon, voilà, Hemingway, Gary me faisaient rêver, peut-être avant de les lire. Ouais.
Du côté du cinéma, Éric Toledano et Olivier Nakache, est-ce qu'il y a eu comme ça des figures de cinéastes qui étaient autant des personnages que des cinéastes qui ont pu être marquantes pour vous ?
Nous, on a été marqués tous Olivier les deux. Et d'ailleurs, c'est... par ces personnalités-là qu'on s'est rencontrés, par exemple, comme Claude Sautet, sont des figures comme ça de metteurs en scène qui nous ont beaucoup marqués à tous les deux. Et donc, on a vu des documentaires sur lui, on a lu sur lui. Et ces films nous ont beaucoup parlé, ces films du réel, ces films de... Alors, ce ne sont pas des comédies, mais c'est un cinéaste comme ça nous a beaucoup marqués à tous les deux.
Même chose, Éric Toledano ?
Moi, c'est plus des courants, oui, les comédies sociales anglaises. On a toujours été fan des... Mais ça reste toujours l'idée de trouver du rire dans des endroits où d'habitude, on ne doit pas rire. Et ça, c'est très anglais. Donc, en France, on a toujours eu plus de facilité à compartimenter les choses. C'est-à-dire, il y a un vrai cinéma, puis un cinéma populaire qui fait rire. Donc, j'aime bien l'idée d'allier les deux.
Manou Farine.
À propos de cinéma, Serge Joncourt, comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé d'apporter un son et vous avez choisi celui-ci.
Thank you.
Serge Joncourt, identification du son ?
Non, je savais que je serais avec deux réalisateurs, donc j'ai pensé le rapport du... Bon, c'est la musique du film Le Messager de Joseph Losey. D'ailleurs, j'imagine la tête de Joseph Losey quand
une musique de Michel Legrand.
Quand Michel Legrand lui propose, lui joue la partie, ça doit être. Non, parce que Michel Legrand, il y a un moment, il faut le dire, quand même, je pense que dans deux siècles, il restera et qu'il sera à peu près l'équivalent de Bach et Handel, enfin probablement. Alors que Lady Gaga, ce sera Suzette Plana. Enfin, on l'aura oublié. Vous voyez ce que je veux
dire ? Moi, j'ai jamais oublié Georgette Plana.
Pardon, c'est un mauvais
Rikita,
exemple.
Rikita, tout ça, je peux vous le dire.
Georgette Lemaire, enfin.
Georgette Lemaire, pareil.
Pareil. Oh, je suis désolé. Bon.
Il va falloir trouver d'autres choses. Oui, car je suis un spécialiste de ces chanteuses.
Bon, absolument. Mais dans deux siècles, c'est pas dit qu'on en parlera encore. Le grand sera toujours là. Et aussi sur cette interpénétration du cinéma et du roman, parce que Le Messager, c'est c'est un scénario de Pinter, mais il y a un roman derrière. Et plus personne ne sait de qui c'est, d'ailleurs. Mais d'une certaine façon, ce roman-là, les œuvres de Hartley sont introuvables, c'est absolument introuvable. Mais le film existe toujours, et ce film-là, à mon avis, il existera longtemps. Donc il y a comme une forme de dette, je ne sais pas, de certains auteurs vis-à-vis du cinéma, et réciproquement, quoi.
J'ai une question à Serge. Est-ce que vous écrivez en musique ?
Ça peut m'arriver. Celle-là, je l'ai un peu fréquentée. Ouais.
C'est pour et par ça. Exemple, pour l'Écrivain National, pendant que vous écriviez ce roman-là, qu'est-ce que vous écoutiez ?
Je reviens souvent à Michel Legrand, je ne sais pas. Voilà, parce qu'il y a une forme de force d'émotion. Et à un moment, ça trébuche, comme là, si on continue ça. Ça cavale et puis ça dope.
C'est des histoires en fait, les musiques de Michel Legrand, c'est déjà des histoires. Quand on écoute une musique, c'est une histoire déjà, avec les temps morts, comme un scénario ou comme une scène. C'est vrai que ça peut motiver. Nous, on écrit tout le temps en musique. Alors, comme on parlait de l'image de l'écrivain qui écrit dans un café, ou ces images-là, ou tout seul, au fond, dans une cabane, dans
quatre
un bois,
cigarettes en même temps.
Voilà, ou une pipe, ou enfin un truc comme ça. Je me demandais comment écrivait Serge en musique ou pas.
En musique ou avec des boules qui essent, mais jamais dans les cafés.
Le rendez-vous, la session.
Et l'actualité musicale, justement, puisque nous y sommes ce soir, Benoît Lagane.
C'est une session pop programmée par Lucille Comeau avec Quand Claude, une des révélations de cette rentrée musicale, découvert notamment par le concours des Inrock Lab, qui fait office tous les ans de pépinière des nouveaux talents. Alors, Quand, c'est un clin d'œil peut-être, Éric Toledano, Olivier Nakache, pour le soleil et la nostalgie des colonies de vacances. Claude, c'est pour l'état civil de la chanteuse Diane. Elle est accompagnée par deux musiciens du groupe Tristesse Contemporaine, et on les retrouve donc ce soir en direct dans le studio 108. Mike est à la guitare, Léo Elden en clavier et percussion, Diane Sagnier au chant. Ils interprètent ce soir Trap, c'est à vous.
Bonsoir. You won't get me just like that, 'cause it ain't easy to begin when the wives are coming in. I won't fall into your trap.
C'était quand Claude en direct dans le studio 108, Yann Sagnier au chant, Mike au clavier et percussion et Léo Elden à la guitare. Je pense que je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Le EP est déjà disponible. En attendant, un album qui viendra très prochainement. Il sera en concert, notamment le 17 octobre au 3 Baudets à Paris, dans le cadre du Mama Festival.
Ce qui trahit le prolo plus que tôt, c'est les que.
Gue.
Gue.
Gue. C'est des phrases, mais elles sortent du contexte.
On dit pas 4, mais 4. On dit pas septembre, mais septembre. Par exemple, répète après moi.
Le sous-texte de son propos, c'est finalement, c'est plus facile d'écrire un scénario qu'un roman.
Bah ça c'est vrai. Merci à nos invités, Eric Toledano et Olivier Nakache. Samba sortira en salle mercredi prochain. Je signale la parution de votre intégrale en coffret DVD chez TF1 Vidéo. Serge Joncourt, l'écrivain national, apparu aux éditions Flammarion. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Tu vois le tunnel là, en fait, tu vois? Tu vois, tu
l'as
compris. Visé, tu tires dedans.
Mais je t'explique,
comme ça, ça va pas
je t'explique un truc.
Ouais.
Regarde.
Mais vas-y, je veux.
T'as des yeux?
Ouais.
Là, il y a quoi? Il y a un chemin.
C'est
y a
pas
un chemin.
Chemin.
Là, il y a un chemin.
Il commence pas.
Donc, si je veux tirer pas là, et je tire, fin
du je l'ai fait en 15 coups dans le tunnel, tu vas faire dans le tunnel.
C'est quoi ce problème?
Ben, le problème, c'est qu'il y a des règles.
Demain, une bande de filles avec la cinéaste Céline Sciamma, à ses côtés, l'écrivaine Kaoutar Archi. Des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Manou Farine, Adrien Nazali et Hippolyte Babilote. Journal de la culture Zoé Sfez, à la technique Pierrick Monsigny, Jean-Guislain Mège, à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h55, vous écoutez France Culture, c'est bien.